Je vais évoquer certains points d'une catastrophe peut-être de basse intensité, puisqu'elle n'a pas les mêmes effets, enfin des effets aussi radicaux sur la ville de Paris que l'incendie de Londres n'a eu d'effet sur cette ville. Mais malgré tout, c'est un événement qui reprend certaines des caractéristiques que j'avais mise en avant dans l'introduction générale du séminaire sur la catastrophe. Ce dont je vais vous parler, c'est aussi un projet de livre hein, qui est encore loin de son achèvement. Je suis plutôt dans une phase d'accumulation de la documentation, d'idées, de pistes, et je vais revenir sur certaines d'entre elles. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'une bousculade mortelle qui survient donc le 30 mai 1770 à l'occasion donc des réjouissances qui sont organisées pour le mariage du dauphin, le futur Louis XVI, avec celle qu'on appellera plus tard l'Autrichienne, cette Marie-Antoinette. Donc cette bousculade mortelle fait officiellement 132 victimes, 132 victimes recensées par la police du Châtelet, des dizaines de blessés. Mais en même temps, il y a des estimations folles hein, qui ont circulé dans les correspondances, chez les mémorialistes, même dans la presse européenne. J'y reviendrai. Pour faire le lien avec l'intervention de Thomas Leroux, qui évoquait l'explosion de la poudrerie de Grenelle sous la Révolution, en disant que c'était l'une des plus graves catastrophes du temps. Cette catastrophe de la rue Royale, c'est sans doute la plus grave catastrophe civile survenue à Paris avant 1789. Et on peut considérer que c'est un traumatisme majeur qui a plusieurs entrées ou plusieurs portées. Une portée politique, évidemment symbolique, puisque c'est a priori ouvrir un règne sous de funestes augures. C'est aussi un traumatisme ou un problème politique dans la mesure où le Parlement a lancé, donc ce grand tribunal a lancé une enquête pour répondre à la même question que celle qui a été posée par Emmanuel tout à l'heure, à qui la faute? Établir des responsabilités alors que l'opinion publique crie vengeance, puisqu'il y a donc de nombreuses victimes, et dans un contexte qui est particulièrement tendu et dégradé, un contexte économique et social, qui a été marqué dans les années qui précèdent par des successions d'émeutes et de tensions sur les marchés des grains à la suite d'un premier épisode de libéralisation du commerce des grains et des farines. Et le Parlement a joué un rôle, bien évidemment, dans cette affaire en s'opposant, au moins en partie, à la politique royale dans ce secteur-là. Le résultat de cette enquête, j'y reviendrai, c'est qu'il n'y a pas de coupable sinon la fatalité. Hein, et on a pu considérer que cette absence de responsable a pu jouer, a pu nourrir un ressentiment qui a alimenté le désenchantement du peuple à l'égard de la monarchie et de l'État royal. L'impact a également existé, et c'est d'abord ce qui m'a intéressé dans cette affaire, pour la police parisienne, en tout cas pour les pouvoirs dotés de fonctions de police dans la capitale française. Et cet impact, il est au long cours, puisque dans un certain nombre de textes qui évoquent la préparation de la fête de la Fédération en 1790, on insiste sur la nécessité de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'en 1770. Cette catastrophe deviendrait en quelque sorte le symbole de l'échec d'une police par ailleurs despotique. Alors, cette catastrophe, elle fait, ou si cet événement peut mériter peut-être le qualificatif de catastrophe, c'est parce que cet événement révèle un certain nombre de tensions sous-jacentes, qui n'apparaissent pas forcément immédiates, des tensions qui mettent à l'épreuve ce qu'on peut appeler le système policier parisien, qui, avant cet événement, a la réputation d'être excellent. En gros, cette catastrophe, c'est, pour moi, c'est un peu comme ça que je l'aborde, comme une sorte de mise à l'épreuve d'un système institutionnel, d'un système qui a été réformé à l'époque de Colbert, en 1667. Le symbole de cette réforme, c'est la création de la lieutenance de police. tout se serait merveilleusement passé pendant un siècle, et puis, patatras, un siècle plus tard, en 1770, cet événement révèle que le système est imparfait et qu'il peut même gravement faillir. Alors, en dépit de ces quelques éléments d'appréciation que je vous soumets d'emblée, la place de cet événement dans l'historiographie de Paris est extrêmement limitée. Comme si c'était, après tout, un événement secondaire. 130 morts, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'histoire ? Et peut-être que lui décerner le qualificatif de catastrophe, c'est l'ennoblir à l'excès. Alors, je vais essayer de vous montrer que, à mon avis, ça n'est pas le cas et que c'est un événement à la fois révélateur et créateur et qui mérite, pour cette raison-là, en raison de son caractère dramatique, son qualificatif de catastrophe. Cet événement, on peut l'aborder justement pour saisir les opportunités créatrices d'un événement tragique, pour reprendre un peu le vocabulaire d'Emmanuel tout à l'heure. Il y a des pouvoirs créateurs de cet événement qui accélère, j'essaierai de le montrer, la réorganisation des pouvoirs policiers dans la ville. Des leçons sont tirées en matière de gestion des foules et on peut même ou peut-être considérer que cet événement accélère une conception, on va dire presque métropolitaine, de la gestion des foules et du maintien de l'ordre, la ville ou l'organisme urbain ne pouvant plus se réguler à partir d'un certain seuil, à une échelle entre guillemets micro, celle du quartier, celle de la rue, celle du voisinage, mais cette ville des flux et des mobilités, qui est déjà la ville de la fin du XVIIIe siècle, exige un système général, métropolitain, de contrôle et de gestion. Donc c'est ce que je vais essayer d'évoquer rapidement. Alors juste un mot sur l'historiographie de la question. Les grands livres qu'on pourrait évoquer, par exemple la grande synthèse de Colin Jones, Paris Biography of a City, donc qui est un ouvrage qui date de 2004, il n'y a rien. Bon, ce grand livre sur l'histoire de Paris, alors c'est un grand parcours dans l'histoire parisienne, mais dans le chapitre 6, qui évoque donc la capitale des Lumières, 1715-1789, pas une ligne sur l'événement. Alors, on trouve des informations dans des ouvrages plus pointus, la thèse de Faisal El Ghoul, un Tunisien qui a soutenu une thèse sur la police parisienne de la seconde moitié du XVIIIe siècle à Rennes 2 il y a déjà un certain temps, enfin dans les années 90, évoque non pas cet événement, mais les problèmes de circulation, les embarras dans la ville, etc. Donc là encore, c'est quelque chose qui n'a pas été traité en tant que tel. Dans la nouvelle histoire de Paris, de Jean Chagnot, Paris au XVIIIe siècle, il y a une page, la page 104, dans le chapitre 4, qui traite des institutions municipales, et Jean Chagnot va tirer la leçon politique et institutionnelle générale de l'événement, à savoir que la lieutenant général de police, face à d'autres institutions, tire son épingle du jeu et renforce ses compétences à la suite de cet événement. Cette lecture traduit le primat d'une approche essentiellement institutionnelle et politique qui a eu son heure de gloire ou qui relève d'une certaine tradition. Si on prend un ouvrage comme celui de Jacques Pechet, qui a été archiviste de la police sous la Restauration, mais qui est aussi une sorte de polygraphe qui réfléchit à ce qu'est la police philosophique au moment de la Révolution, eh bien, il développe déjà cet argument d'un échec d'une certaine tradition et de l'excellence des solutions proposées par la lieutenance générale de police. Il y a, pour être tout à fait juste, d'autres pistes, d'autres lectures qui ont été proposées de cet événement, notamment par l'historienne Arlette Farge, dans une perspective, on va dire, d'histoire vue d'en bas, et justement pour nourrir la thèse du désenchantement du peuple envers le roi, parce que dans les pièces d'archives donc, qui voient le jour à la suite de l'événement, notamment les procès-verbaux de police, les procédures de reconnaissance des cadavres, etc., il y a tout un tas d'informations sur les vêtements, les objets du quotidien que ceux qui étaient assemblés là avaient emporté avec eux. Et donc Arlette Farge a abordé ce dossier sous cet angle, également sous l'angle de l'opinion publique, en évoquant les chroniques, les chansons, les feuilles volantes autour de cet événement. Le seul qui a approché un tout petit peu cet événement de manière un petit peu différente, et c'est un petit peu de lui que j'ai souhaité partir au début de ce travail, c'est Steven Kaplan, dans un ouvrage qui s'appelle La bagarre. C'est le nom qu'on donne à cet événement, hein, dans nombre de textes du XVIIIe siècle. Et La bagarre, qu'est-ce que c'est? C'est une parodie de l'abbé Galiani, une parodie perdue que Kaplan a retrouvée. Et cette parodie de l'abbé Galiani, c'est en fait une charge contre l'économie politique libérale du XVIIIe siècle, et qui explique que cette bagarre, c'est exactement ce qui se passe dans la société quand on fait sauter les régulations. L'abbé Galiani, il a été secrétaire de l'ambassade de Naples à Paris, c'est un membre de la République des Lettres, hein. C'est un ami de Diderot, et c'est quelqu'un qui a pris position contre les thèses des économistes physiocrates, et donc lui se sert de cet événement comme de manière un peu emblématique pour en faire l'illustration, donc d'un excès toxique de liberté, d'une absence de régulation, d'une absence de coordination et de réglementation de la police qui produit donc des effets catastrophiques. Alors, au-delà de ce parcours qui est ici schématique et très rapide, mon objectif à moi, c'est de repartir d'un certain nombre de sources, depuis les textes réglementaires, registres de délibération de la ville, ordonnances de police, papiers liés à l'enquête parlementaire, papiers de la police, témoignages, chroniques, mémoires, presse périodique, et au-delà de Paris, d'essayer de voir aussi quel a pu être l'impact de l'événement, mais pour interroger une question plus générale qui est celle-là de la gestion des foules, qui est une manière peut-être de prévenir un certain nombre de risques. Alors, rentrons rapidement dans le sujet. Les contextes. Alors, je vais les évoquer rapidement. Donc, c'est un contexte donc international. En même temps, ce qui montre bien le caractère sensible de l'affaire. Donc, il s'agit du mariage du dauphin Louis et de Marie-Antoinette, grande affaire diplomatique qui s'inscrit dans le sillage, hein, dans les retombées du retournement, du renversement des alliances au début de la guerre de 7 ans, en 1756. La France abandonne l'alliance avec la Prusse, se rapproche donc de l'Autriche, et donc, vous le savez, les princes n'épousent pas les bergères, ils épousent leur alter ego et en général pour sceller donc des alliances diplomatiques au plus haut niveau. Ce mariage, il est aussi, il n'est que la face émergée d'un système de relations important entre la monarchie française et la monarchie viennoise. Les deux monarchies sont habitées par une volonté de réforme. Veulent aller dans le sens d'un renforcement de l'efficacité de leurs États. Et donc, il y a des échanges administratifs, diplomatiques, hein, très importants entre ces deux monarchies. Et la police, rapportée à une science de bien gouverner et de rendre les hommes heureux, hein, qui embrasse des champs de compétences très, très vastes et qui vont bien au-delà du maintien de l'ordre, la police fait partie de ces échanges diplomatiques entre l'Autriche et la France. La preuve, c'est un texte très célèbre, le mémoire, enfin très célèbre pour ceux qui travaillent sur ces questions-là, hein, le mémoire du commissaire Lemaire sur la police de Paris à la fin des années 1760. C'est le résultat d'une commande qui a été adressée par le gouvernement autrichien à Choiseul. Il s'agit donc d'obtenir des informations sur l'excellence de l'organisation de la police parisienne en vue de réformer la police viennoise, un processus de réforme ayant été engagé depuis les années 1740. Dans la version finale du mémoire, hein, qui est achevée en 1760, fin 1770, et qui est ensuite un texte qui va circuler en Europe, eh bien, il n'y a absolument aucune, mais absolument aucune allusion à l'événement. Hein, c'est comme si ça n'avait pas existé. On peut comprendre, hein, que, bien sûr, la catastrophe n'ait pas été à l'avantage de cette police parisienne et qu'on ait souhaité l'euphémiser totalement. Donc le contexte dans lequel survient l'événement, c'est un contexte diplomatique, donc qui n'est bien évidemment pas neutre. C'est un contexte politique et social tendu. Là, je vais aller très vite, je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Donc à la suite des réformes de libéralisation du commerce des grains au début des années 1760, ça ne se passe pas très bien. Il y a des phénomènes, mais bon, à la suite de mauvaises récoltes, des tensions sur les marchés de subsistance dans plusieurs provinces. Et en même temps, ce contexte est important parce qu'il faut que la monarchie fasse profil bas. Et il y a des textes qui disent qu'il ne faut pas trop dépenser pour ne pas mécontenter le peuple à un moment difficile pour lui. Ce contexte politique, bon, qui a priori n'a rien à voir au départ avec l'événement, est nourri d'une dissension récurrente entre le Parlement, les magistrats et les monarchies, et la monarchie. Et donc, lorsque les magistrats vont avoir, qui sont détenteurs de la grande police et qui sont, je vais y revenir dans un instant, responsables, entre guillemets, du bon fonctionnement des institutions de la police parisienne, donc vont lancer une enquête pour voir pourquoi ça a dysfonctionné, il est bien évident qu'ils jouent avec de la dynamite dans le cadre donc de relations tendues avec la monarchie. Donc un contexte sociopolitique qui est tendu, je n'insiste pas davantage, et ce contexte sociopolitique tendu est redoublé par un contexte, on va dire, socio-institutionnel assez complexe. Le système policier parisien au XVIIIe siècle, à la toute fin du XVIIIe siècle. Ce qu'on peut retenir de ce schéma, c'est quelques éléments simples. Tout d'abord, le fait qu'il n'y a pas une autorité de police responsable de ce qu'on va appeler le maintien de l'ordre, l'organisation des cérémonies dans la ville. Il y a plusieurs autorités de police. Ces autorités de police, quelles sont-elles? La lieutenant générale de police, donc qui est une émanation de la juridiction royale du Châtelet. Le lieutenant de police, donc, il est apparu à la fin du XVIIe siècle, mais c'est un personnage un petit peu particulier qui a quasiment rang de ministre dans la mesure où il a un accès direct à la personne du roi. Mais en même temps, il est sous la tutelle théorique du Parlement, auquel il doit rendre des comptes, hein, puisque c'est la cour d'appel du Châtelet, hein, le Parlement. Donc il y a cette première bizarrerie. Donc à côté du lieutenant général de police, ou en plus du lieutenant général de police, il y a donc le Parlement qui est doté de pouvoirs de police et qui doit superviser l'action du lieutenant général de police. Sous le lieutenant général de police, il y a des officiers au Châtelet, les fameux commissaires enquêteurs dans les quartiers de police, les inspecteurs, laissons ça de côté. Mais vous avez donc le lieutenant de police, retenons ça, le Parlement, mais également le bureau de ville, la ville de Paris, donc, qui est dotée de pouvoirs de police, des pouvoirs qui sont résiduels, qui sont en recul depuis la fin du XVIIe siècle, mais qui restent très importants pour tout ce qui concerne le fleuve, la Seine, hein, notamment les marchandises qui transitent sur la Seine, mais ils sont donc responsables aussi de l'administration, on va dire, des quais, des ports, et d'un certain nombre de places, comme la place de Grève, hein, qui sont à côté de l'hôtel de ville, mais au contact avec la Seine. La ville a aussi la gestion policière théoriquement des boulevards, mais bon, là, c'est en recul très très net au XVIIIe siècle. Parmi les autres forces de police, il y a des forces de police dans un sens peut-être plus moderne que ce que nous on entendrait par la police au sens de maintien de l'ordre, c'est-à-dire que là il s'agit de militaires, il s'agit de la troupe. Donc il y a la maison militaire du roi et la garde de Paris qui ont des responsabilités, on va dire, dans la police active, dans le maintien de l'ordre effectif. Donc ça veut dire que pour organiser ou pour gérer, administrer une vaste cérémonie avec un grand concours de peuple, comme ce qui est prévu au moment des réjouissances du dauphin, il y a potentiellement plusieurs pouvoirs qui sont ici compétents, on va rentrer un petit peu dans le détail, ou qui sont susceptibles d'être, il y a plusieurs forces qui sont susceptibles d'être mobilisées, et il n'y a pas un centre, un cœur, une tête clairement identifiée. Ce qui veut donc dire que dans une situation comme celle-ci, tout fonctionne au compromis, dans la répartition des territoires et des compétences. Et ces compromis, eh bien, on en trouve trace dans les préparatifs des festivités. Un plan qui vous représente la place Louis XV, c'est-à-dire l'actuelle place de la Concorde. Ça correspond, donc on est dans l'ouest de Paris, et ça correspond à un quartier qui est en pleine expansion, hein, qui fait l'objet d'un certain nombre d'opérations au XVIIIe siècle de spéculation immobilière. Vous avez au-dessus, au nord, donc la terminaison de l'ancienne enceinte qui a été abattue à la fin du règne de Louis XIV, donc l'aboutissement des grands boulevards, et donc qui, par la rue Royale, donne ensuite donc dans l'actuelle place de la Concorde, c'est-à-dire la place Louis XV, la dernière grande place royale de la ville de Paris. Alors ce choix de la place Louis XV, c'est déjà l'objet d'une transaction. Car normalement, ces grandes cérémonies, ces grandes festivités étaient organisées place de Grève. Place de Grève, il y a eu un précédent tragique en février 1749 à l'occasion de la célébration de la paix qui a fait suite à la guerre de succession d'Autriche entre 1740-1748, donc ratification du traité d'Aix-la-Chapelle qui clôt cette guerre et organisation de festivités devant l'hôtel de ville, place de Grève, donc une place qui est sous l'administration directe du bureau de ville. Fontaine de vin, feu d'artifice, etc. Mais déjà une bousculade, un incident qui est rapporté par plusieurs chroniqueurs et mémorialistes, outre des indécences, et cette bousculade, elle fait 12 victimes, 12 morts, étouffés, déposés à la morgue, et un grand nombre de blessés. Alors il y a déjà un phénomène de rumeur, on parle de 200 morts, dont certaines victimes ont été précipitées dans la Seine par la bousculade, etc. Donc on a là déjà le même phénomène d'exagération par la rumeur de la catastrophe qu'on va retrouver en 1770. Le commentaire de certains mémorialistes, c'est déjà manque d'ordre et de prévoyance de la part des magistrats, donc de la part de la ville. Le choix de la place Louis XV, donc, est commandé en quelque sorte en 1770 par ce précédent fâcheux. Il s'agit de disposer d'un espace large, hein, d'un lieu de réjouissance, a priori, plus adapté. C'est ce qu'on trouve donc dans les délibérations de la ville. Mais le problème pour la ville, c'est que ce changement de lieu peut symboliquement se traduire ou illustrer en quelque sorte le recul des pouvoirs de la ville. Même si, en raison de la proximité de la place avec la Seine, avec les quais, c'est un espace qui va être sous l'administration, sous la police, si vous voulez, sous le contrôle de la police de la ville craint, par ce déplacement, de donner le sentiment que ses pouvoirs sont en recul. Et donc, il y a, si vous voulez, toute une négociation pour que l'hôtel de ville conserve la haute main sur les préparatifs de la fête. Une dimension, c'est une dimension entre guillemets culturelle, il y a tout un tas de textes, de pièces de théâtre en l'honneur des mariés, etc., qui sont diffusés dans le public avec l'accord de la censure royale qui est à l'époque tenu par le lieutenant de police pour ce genre d'imprimé. Et puis il y a toute une rafale d'ordonnances de police, mais qui émanent de la ville. Quelles sont les cibles de ces mesures de précaution? Tout d'abord, très classiquement, et là, à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, etc., ça va être pareil, des mesures de lutte contre l'incendie, hein, notamment parce qu'il va y avoir un feu d'artifice. Des mesures qui relèveraient du maintien de l'ordre et de la préservation de la morale publique. Lutte contre la prostitution, éviter les attroupements indésirables, éviter les jeux, etc. Et puis, des mesures qui vise à préserver la bonne circulation, hein, aux intersections, à l'entrée et à la sortie des lieux de rassemblement. Donc, dans les ordonnances de police, on va retrouver ça. Alors, il faut à la fois pavoiser la ville, hein, que les bourgeois illuminent leurs façades. Il y a, dans une ordonnance du début du mois de mai, toute une réglementation sur la foire qui va se dérouler au débouché de la place Louis XV, donc en allant vers les boulevards. Donc là, comment les marchands forains peuvent s'installer, que peuvent-ils étaler. Là, on va retrouver les mesures de police de morale, interdiction de port d'armes, de prostitution, de vagabondage, de jouer après minuit, etc., etc. Une ordonnance de la fin du mois de mai organise la sûreté sur le port, sur les rivières, mais toujours avec l'idée là d'éviter les activités qui pourraient, via la rivière, favoriser l'incendie. Ces ordonnances de police de la ville sont redoublées par des ordonnances de police de la lieutenance de police, cette fois-ci, donc du Châtelet, édictant des interdictions de construire des échafauds devant les maisons, sur les ports, sur les quais, sur les rues adjacentes à la place Louis XV. Interdiction aussi aux cochers, aux voituriers d'encombrer la place avec leurs voitures. Hein. Ce sont des mesures classiques, mais ce sont des mesures qui vont être mal appliquées. Le problème qui se pose ici, c'est celui du commandement, de la mise en musique des préconisations des ordonnances. Et là, on voit que en fait, si les commissaires au Châtelet doivent appliquer, par exemple, doivent faire exécuter l'ordonnance du lieutenant général de police, il n'y a pas un commandement unique des différentes forces qui vont être amenées à intervenir. Donc il y a théoriquement un commandement conjoint entre la ville, la lieutenance de police et l'état-major de la garde de Paris, donc qui est une troupe militaire, pour régler la circulation, pour surveiller la place et les abords de cette place. Il y a une cartographie à faire, que je n'ai pas encore faite, hein, pour représenter le dispositif spatial qui a été élaboré, même s'il a mal fonctionné. Il y avait un dispositif spatial destiné à contenir une foule immense qui était attendue. On aurait enregistré une foule d'environ 400 000 personnes sur cette place et aux alentours le jour J. À ce stade, avant l'événement, le lieutenant de police, donc, qui est Sartine, est persuadé que normalement le rôle de chef d'orchestre devrait lui être confié. Mais par respect des instructions royales qui veulent préserver donc symboliquement l'autorité de la ville sur cet espace, la lieutenance de police ne va pas s'opposer formellement aux initiatives de la ville et Sartine va approuver les plans qui sont présentés à la fin du mois de mai par la ville de Paris, même si le lieutenant de police entendait théoriquement être pleinement responsable de tout ce qui intéressait la tranquillité publique dans la capitale. Les critiques viendront après coup, et Sartine, au moment de l'enquête du Parlement, se lâchera, hein, et formulera des critiques cinglantes, expliquant, petit un, qu'il n'y avait pas d'ordre établi pour l'arrivée des carrosses par tous les débouchés, qu'il n'y avait pas d'ordre établi pour les files de carrosses en sortant, donc ni à l'entrée ni à la sortie, finalement, les flux n'ont été gérés. Et enfin, il enfonce le clou en disant qu'il n'y avait pas assez de gardes dans les avenues, hein, pour intervenir en cas de problème, pour intervenir au moment du feu d'artifice. Et tous les postes de garde qui avaient été conçus étaient de toute façon trop éloignés de la place pour pouvoir agir efficacement. Le problème, c'est que la technologie, entre guillemets, hein, les habitudes consistant à régler la circulation dans ce genre de circonstances existent. Lorsqu'on regarde les papiers de la Maison du Roi, la série O1, on s'aperçoit que pour les fêtes de la cour, il y a, à Versailles, il y a des dispositifs très précis qui règlent l'entrée et la sortie des carrosses pour éviter ce genre de problème. Donc, la question du pourquoi ça n'a pas marché, hein, restera ici entière et sera un problème. L'insuffisance des mesures de sécurité et de la coordination des acteurs restera un élément central de l'enquête à venir et des jugements qui seront posés par la suite. Vous n'avez aucune gravure représentant la catastrophe, représentant les victimes, représentant les bousculades. En revanche, vous avez des gravures qui montrent l'arrivée du cortège, etc. Et vous avez ce qui devait être le clou du spectacle, à savoir le feu d'artifice tiré sur la place Louis XV. Alors, c'est un feu d'artifice qui a été décevant, nous dit-on, hein, ça arrive parfois, les artificiers ont mal travaillé, mais tout de suite après ce feu d'artifice, il y a eu des mouvements de foule, notamment des voitures, des carrosses de gens de qualité qui ont voulu sortir de la place, à un moment où le flux de ceux qui voulaient voir le feu d'artifice était encore en train d'arriver et n'avait pas accédé à la place. Qu'il y avait des fossés qui ont été mal comblés, il y avait des travaux de voirie qui n'étaient pas achevés au moment où on décide d'organiser les festivités dans cet espace. Donc, ces flux très importants et qui sont mal régulés, dans un espace qui est réduit parce qu'il a été mal déployé, il est encore encombré de matériaux de construction, il y a donc des fossés qui sont mal comblés, eh bien, ça va provoquer la catastrophe alors qu'il y a trop peu d'accès. Hein. D'où la bousculade, je passe sur les détails, mais il y a 2 heures de confusion totale, hein, avec des amoncellements de corps, c'est un véritable champ de bataille, des gens qui sont piétinés, écrasés par les carrosses, qui meurent étouffés debout du fait de la presse, et il faut à peu près 2 heures avant que l'armée, hein, la garde, puisse reprendre le contrôle de la situation. C'est donc un énorme choc d'emblée dont on trouve trace dans les gazettes, dans les mémoires de chroniqueurs et dans un certain nombre de correspondances. Donc les témoignages sont immédiats, hein, qu'il s'agisse des correspondances relatives aux échanges au sein de la République des lettres, hein, et ensuite on en a aussi des traces dans des ouvrages imprimés, comme par exemple le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Donc plus de 10 ans après la catastrophe, la trace demeure. Bien évidemment, le point de vue change, hein. Mercier réfléchit à la société de son temps, à ses injustices, à ses dysfonctionnements, et il raisonne sur l'événement dans cette perspective-là. Alors, quelques chiffres. Dans la correspondance littéraire de Grimm, on évoque 1 millier de victimes. Le libraire Hardy, donc, qui nous a laissé sa très belle source, son journal, hein, qui pointe un défaut répréhensible de police, il parle de plusieurs centaines de victimes. Le baron d'Holbach, qui tient un salon à Mythe Diderot, 200 victimes. Madame d'Épinay informe ses correspondants de la mort de 680 victimes, etc., etc. Louis-Sébastien Mercier, donc 10 ans après, dans le tableau de Paris, alors que il y a eu une publication de chiffres officiels, hein, par le Châtelet et dans la presse, la Gazette de France, le Mercure, etc., évoque encore 1200 à 1800 victimes. Chaque maisonnée, écrit-il, dans la capitale déplore la mort d'un parent ou d'un ami. Donc la distance temporelle ne réduit pas forcément à la baisse, hein, ne conduit pas à réviser à la baisse les chiffres. Dans les souvenirs de la marquise de Créqui, souvenirs qui datent du début du XIXe siècle et qui ont été publiés sous la monarchie de Juillet, elle évoque 4000 personnes tuées ou estropiées. Et elle cite surtout des nobles, hein, le maréchal de Biron, la comtesse d'Estaing, etc., les femmes des échevins, qui auraient été au rang des victimes. L'onde de choc atteint la province. L'information circule par le biais de la presse périodique, des nouvelles à la main, des correspondances, et on en trouve trace dans des journaux intimes. Par exemple, on a trouvé trace dans le journal dans les heures perdues de Pierre Barthès, donc c'est un texte connu, professeur répétiteur de latin. Lui parle de 1500 voleurs qui auraient assailli la foule. Hein, et ce sont à cause d'eux que, en attaquant les équipages, en créant la panique, hein, qu'il y aurait eu des personnes écrasées. Au total, plus de 1200 personnes, plus 400 blessés, indépendamment d'un certain nombre d'opérations de vol particulièrement sauvages, des boucles d'oreilles arrachées, etc., etc. Et ensuite, ces bandits auraient été rompus, pendus et d'autres emprisonnés. Rien de tout ça, bien sûr, mais là, peut-être qu'on a un écho très déformé de l'enquête conduite par le Parlement à la suite de la catastrophe. La London Gazette, ça c'est une piste que je veux suivre, c'est voir un petit peu quel a été l'impact international de l'événement. Mais dans la London Gazette, par exemple, on évoque une bousculade avec 137 corps exposés. Donc là, on est proche du chiffre officiel au début du mois de juin. Mais le 16 juin 1770, là, on parle de 712 morts. Hein, the number of dead, etc., 712. On précise, donc, il y a des abbés, des moines, etc., 32 personnes de condition, mais on précise surtout, ce qui rassure sans doute l'opinion publique anglaise, qu'il n'y a pas d'anglais au rang parmi les victimes. Ce problème-là, donc le retentissement de l'événement dans l'opinion publique, c'est en soi un problème de police, c'est en tout cas un problème qui devient vite sensible et politique pour la monarchie. Sartine fait insérer un article dans la Gazette de France pour limiter la portée de la tragédie, hein, et il s'appuie sur cela, sur l'enquête qu'il diligente auprès des. Ou sur les procès-verbaux, hein, que rédigent les commissaires et qui vont permettre de dresser l'inventaire exact des victimes et des blessés. Le 22 juin, hein, le lieutenant de police, face à l'enflure, si vous voulez, des rumeurs, hein, demande aux commissaires de publier, chacun dans leur quartier, le chiffre exact des victimes recensées, ces victimes, donc, ce montant à 132, 132 personnes. Ce qui est sûr, c'est que c'est un choc pour les contemporains. C'est ressenti comme l'un des plus grands désastres civils et c'est donc très vite une préoccupation pour les autorités qui doivent à la fois gérer l'opinion publique, gérer également les critiques très nombreuses qui lèvent contre l'action des autorités, autorités qui n'ont pas su empêcher le drame, n'ont pas su empêcher les voleurs d'agir, même si le problème principal n'était pas celui-ci. Donc, l'administration royale et la ville sont contraintes de gérer l'urgence et les secours. Alors, l'urgence, c'est d'abord, on songe, nous, plutôt à une urgence, on va dire, sanitaire, médicale, portée, secours aux blessés, séparer les cadavres des survivants, établir un cordon avec la garde pour protéger ces opérations de secours. C'est apporter un soulagement immédiat. Ce soulagement immédiat doit être apporté par des ecclésiastiques, par des chirurgiens qui se déclarent spontanément, et on va faire chercher un chirurgien attaché au quartier, au quartier en question, donc qui se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré, et les chirurgiens sont effectivement les spécialistes de l'urgence médicale, ceux qui vont établir les premiers constats que les commissaires vont ensuite intégrer dans leurs procès-verbaux. Mais cette dimension médicale, elle est finalement assez faible, hein. On va faire chercher de l'eau de vie, du vinaigre, de l'eau fraîche. On cherche à faire évacuer les blessés vers l'Hôtel-Dieu et l'hôpital de la Charité. Mais très vite, ce sont d'autres considérations qui prévalent, des considérations que l'on va dire politiques et institutionnelles. Très vite, ce qui joue, c'est la concurrence entre un certain nombre d'officiers qui sont responsables du maintien de l'ordre. Alors, j'ai dit que le Châtelet avait des commissaires, les commissaires enquêteurs, examinateurs, etc. Mais dans l'organigramme, sous la ville, vous avez aussi des personnages qui s'appellent des commissaires de la ville, hein, qui osent, d'ailleurs, ça fait jaser, s'appeler de plus en plus au XVIIIe siècle commissaires de police. Ces commissaires de la ville, qui sont assez mal connus, sont compétents dans les parties du territoire de la ville qui sont sous l'administration de la ville. Donc vous avez des commissaires de la ville, place du Châtelet, et ceux qui sont aux premières loges sur la place royale, ce sont des commissaires de la ville. Le problème de ces commissaires de la ville, c'est qu'ils n'ont pas dignité de magistrat, comme sont les commissaires au Châtelet, et donc ils n'ont pas le pouvoir de dresser procès verbal. Donc ce qu'on voit très vite se mettre en place au moment des faits, c'est une espèce de concurrence sournoise entre les officiers de la ville qui sont sur place et qui doivent commencer, si vous voulez, à secourir les blessés et à dresser ce qui ressemblerait à un procès-verbal. Et puis tous ceux qui arrivent ensuite, c'est-à-dire le lieutenant général de police, le procureur du roi et les commissaires des quartiers de police qui, eux, vont être habilités à dresser procès-verbal, à décrire les blessures et à amorcer, donc, véritablement, les procédures. Derrière cette concurrence, ce qui est en cause, c'est essayer de sauver l'honneur de la police. La police a fait faillite, en quelque sorte, et donc, derrière cette concurrence, il y a un enjeu. Quelle est la force de police qui va arriver, en quelque sorte, je schématise à outrance, parvenir à sortir son épingle du jeu. Alors là, les pièces qui sont produites, les procès-verbaux des commissaires au Châtelet sont tout à fait intéressantes parce que, en associé avec les chirurgiens, il y a des descriptions extrêmement précises, minutieuses, des cadavres, de l'apparence physique, de l'âge, du sexe, etc. On décrit les causes, enfin les blessures, les causes probables du décès. On inventorie aussi tous les biens de ces victimes, c'est-à-dire qu'on prépare les opérations d'identification de ces cadavres qui ne sont pas détenteurs de pièces d'identité à l'époque. Et les commissaires du Châtelet vont organiser en plein air une sorte de morgue improvisée devant l'église de la Madeleine. Vont s'appuyer sur la garde de Paris qui va faire circuler la foule et gérer ceux qui arrivent pour identifier les cadavres. Et d'une certaine façon, les officiers du Châtelet font dans l'urgence la démonstration que eux, à la différence des officiers de la ville, savent gérer une foule dans un contexte d'urgence. Ce travail des commissaires au Châtelet donne naissance à la toute fin à ce type de document, c'est-à-dire un tableau général de toutes les opérations relatives à la reconnaissance des cadavres. Donc vous avez le numéro d'un cadavre, le rapport du médecin et des chirurgiens qui est consigné, donc expliquant quelles sont les blessures, les coups, les contusions et les causes du décès. Vous avez les vêtements, la description des vêtements, des effets du cadavre, et puis ensuite un certain nombre de colonnes qui évoquent les personnes, le nom et l'identité des personnes qui viennent identifier les cadavres, ceux qui viennent récupérer les effets, etc., etc. Et ça, si vous voulez, donc c'est l'aboutissement du travail d'enquête qui est mené par les commissaires du Châtelet, mais qui incarne, si vous voulez, l'esprit d'ordre, l'esprit bureaucratique, mais qui est un élément très important de cette police du Châtelet au XVIIIe siècle, tel qu'il peut se déployer de manière absolument parfaite, cette manière de recréer de l'ordre à partir du désordre, à partir, si vous voulez, de procédures bureaucratiques. Et donc le Châtelet excelle dans ce domaine-là, et encore une fois, c'est une manière, sans doute, de sauver l'honneur de la police, ou en tout cas de certaines de ses forces, alors que cette police, ses pouvoirs de police à Paris, ont ici gravement failli. L'autre enjeu, d'organiser le secours pour les blessés. Et il y a un autre enjeu ici, c'est qui doit être responsable du secours. Tout de suite, un certain nombre de grands personnages, notamment le dauphin, Marie-Antoinette, etc., donnent des sommes d'argent importantes à distribuer aux blessés. Ces sommes, elles vont être administrées par la lieutenant générale de police. Et là, la lieutenant générale de police doit théoriquement s'appuyer sur le réseau des curés de paroisse. Et les curés de paroisse, donc, vont devoir faire l'inventaire, alors là aussi pour des raisons de gestion de l'opinion publique, de la rumeur, etc., des blessés qui relèvent de leur paroisse. Donc, il y a le travail de recension des victimes que font les commissaires, mais il y a aussi cette enquête qui est diligentée par la lieutenant générale de police auprès des curés de paroisse. Alors, les curés sont très contents, voilà, ils écrivent au lieutenant de police, comme celui, le curé de Saint-Nicolas-des-Champs, qui montre à quel point le lieutenant de police
et a le souci du bien-être et des secours de la population. Mais très vite, dans cette correspondance, ce qui apparaît aussi, ce sont des tensions entre ces curés qui jouent un rôle théoriquement dans l'administration des secours et surtout dans l'inventaire des besoins, et ceux qui vont être véritablement activés par le lieutenant de police, c'est-à-dire ses auxiliaires directs, les inspecteurs de police. En effet, vous l'avez compris, la question est sensible, il y a une effervescence dans l'opinion, et donc il faut calmer cette opinion rapidement. Une manière de la calmer rapidement, c'est de distribuer rapidement les secours dont le lieutenant de police est détenteur. Et donc, pour aller vite, le lieutenant de police s'appuie sur les inspecteurs qui vont dans les quartiers distribuer les secours. Moyennant quoi, les curés se sentent en quelque sorte dépassés. On a l'impression qu'on passe par-dessus leur tête. Et vous avez donc des plaintes, certes pleines de révérence envers le lieutenant de police, qui expliquent, hein, comme celle qui est citée ici, le curé de Saint-Louis en Lille, mais il y en a d'autres, qui au mois de juin 1770 expliquent que lui et ses auxiliaires sont véritablement ceux qui sont les mieux placés pour connaître les besoins de la population, le nombre des blessés, pour essayer de faire le partage entre les vrais besoins et les faux besoins, parce qu'il y en a qui essayent de tirer sur la corde, hein, la longue habitude qu'ils ont de les voir, de les connaître, donc sous-entendu les habitants de la paroisse, de me faire le rapport, suivant l'usage de ces assemblées de charité, les mettaient à portée de remplir dans toutes ces vues, tous ces secours. Hein. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une critique implicite qui s'exprime parfois de manière encore plus vive contre les inspecteurs qui sont mal connus de la population et qui connaissent mal la population et qui donc distribuent les secours à tort et à travers. En fait, il me semble que derrière ce problème-là, derrière ce genre de témoignage, il y a une tension entre ceux qui interviennent habituellement en situation de catastrophe, à savoir les détenteurs du pouvoir religieux, et ceux qui prennent au XVIIIe siècle et à la fin du XVIIIe siècle, sous la houlette du lieutenant de police, de plus en plus d'importance. Donc il y a un conflit en quelque sorte de légitimité, c'est-à-dire les inspecteurs qui sont porteurs de secours, on va dire, laïcisés, hein, et contrôlés directement par l'administration. C'est un problème, hein, qui rebondit à d'autres moments, dans d'autres circonstances. Alors, au-delà de ces querelles et de ces conflits, quelles sont les retombées de cette catastrophe et de cette crise ? Il va d'abord y avoir donc une interrogation à travers l'enquête lancée par le Parlement qui donne des mémoires. Hein, chacune des forces de police doit produire des mémoires de justification. Donc vous avez un mémoire de la garde de Paris, un mémoire de la ville, un mémoire des officiers du Châtelet, un mémoire du Guet, hein, et aucune solidarité entre eux. Et évidemment, tout le monde dit « c'est pas moi, c'est l'autre hein. ». C'est un grand classique. L'objectif, derrière ces mémoires, donc ce qu'on voit jouer, si vous voulez, c'est les querelles entre officiers, les limites de juridiction, les problèmes d'attribution, de chevauchement entre les uns et les autres. Il y a donc ça, il y a aussi des enjeux, puisque la ville veut essayer de sauver sa tête, si j'ose dire, et la lieutenance de police est persuadée qu'elle peut profiter de la situation pour faire progresser ses pouvoirs. Et c'est effectivement ce qui va ressortir de l'enquête à l'été 1770. Mais la manière même dont les mémoires sont rédigées est éloquente. Quand vous regardez le mémoire de la ville, par exemple, c'est un mémoire qui va chercher des textes très anciens pour montrer que, depuis la plus haute antiquité, les magistrats ont des pouvoirs de police et qu'on ne peut pas leur ôter. C'est-à-dire qu'ils ont une justification par l'histoire, par la tradition, hein, mais qu'ils ne répondent pas véritablement à un des aspects de la question posée par l'enquête, à savoir qu'est-ce qui a dysfonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Hein. Ceux qui répondent véritablement à la question, hein, ce sont les officiers du Châtelet. Et les officiers du Châtelet, ils ne s'appuient pas sur la tradition, mais ils font des réponses qui sont des réponses, on va dire, pratiques, pragmatique et centré sur l'actualité. Voilà ce qu'on peut lire. Pour répondre à la seconde question sur les précautions à prendre dans les circonstances de fête et de divertissement public. Voilà ce qu'ils disent. L'affluence et le concours d'une infinité de citoyens dans un même lieu, le tumulte, la confusion, le danger qui accompagnent toujours ces moments, comment résoudre ça, hein? Eh bien, la solution qu'il préconise, c'est l'unité du commandement. C'est le fait qu'il n'y ait qu'une seule tête. C'est exactement ce que demande le lieutenant de police, et c'est encore ce qu'explique Le Noir, beaucoup plus tard, dans ses mémoires, rédigées sous la Révolution. Donc la conséquence, si vous voulez, de cette catastrophe, du point de vue des pouvoirs de police, ça va être peut-être un approfondissement des réformes lancées à l'époque de Colbert. Ça se voit au moins de deux façons. Donc, par le fait que les pouvoirs du lieutenant de police sont confortés, renforcés, dans le sens d'une centralisation accrue. Et ça se voit également sur un versant qui est souvent oublié de la réforme de Colbert, à savoir une réforme qui consiste à transformer progressivement le Guet Paris, qui est une troupe composée d'officiers détenteurs de leurs charges, qui achètent leurs charges, en une troupe de militaires qui sont commissionnés, c'est-à-dire une troupe de militaires professionnels, qui ne sont pas propriétaires d'une charge et qui répondent au canon de la discipline militaire. Je dis tout ça pour faire vite. Alors, ça veut dire que progressivement, depuis la fin du XVIIe siècle, il y a un processus de fusion d'un certain nombre de corps au sein de ce qu'on appelle, pour faire vite, la garde de Paris. Et ce processus de fusion, il est abouti après la catastrophe, en 1771, et ça sert donc, cette catastrophe va servir de levier pour parachever cette fusion qui était problématique et qui était marquée par des conflits très forts entre plusieurs corps d'officiers dotés de cette police, on va dire, de type active, de type ostensible. Donc, si vous voulez, l'une des retombées de cette catastrophe, c'est finalement cet approfondissement d'un processus de réforme qui a pu être chaotique, en tout cas beaucoup plus chaotique que ce que l'histoire institutionnelle nous a appris jusqu'alors. La deuxième conséquence, c'est peut-être l'admirable vigilance de la police, pour parler comme Hardy, et ce que moi j'appellerais plutôt l'émergence progressive une police métropolitaine. En effet, si on se projette dans le temps, en 1782, à l'occasion de la naissance du Dauphin, on organise de nouveau de vastes festivités dans cette bonne ville de Paris. Et là, on s'aperçoit de l'ampleur des précautions de police qui sont prises, comme si on avait, en quelque sorte, le négatif de ce qui s'est passé en 1770. On gère les flux, on les fragmente, on évite les attroupements massifs en un seul et même endroit, c'est-à-dire qu'on conçoit plusieurs espaces pour les festivités. Il y a un quadrillage et une surveillance absolument préventive. On visite, on enregistre, on espionne avant l'organisation de la cérémonie. Tout ce qui pouvait encombrer l'espace est systématiquement évacué, détruit, avant l'organisation des festivités. Les secours sont prévus à une grande échelle. Cordes, pompiers, on vérifie les réserves d'eau, les seaux, etc. Et il y a donc tout un système de renseignement qui repose sur l'espionnage pour éviter les attentats, les troubles, les mouvements divers. Donc cette admirable vigilance de la police, elle est attestée, signalée par Louis-Sébastien Mercier, dans le tableau de Paris, ou encore par Hardy dans son journal. Mais cette admirable vigilance de la police, elle n'est pas, en quelque sorte, tombée du ciel. Il y a en 1778, c'est l'image qui vous manque, donc quelques années après la catastrophe, un plan de travail pour la sûreté de Paris, que l'on doit à la plume du lieutenant de police d'alors, Le Noir, et qui est un plan visant à coordonner l'ensemble des forces, on va dire de police au sens large, sous la houlette du lieutenant de police. Alors on va trouver des auxiliaires habituels, c'est-à-dire les commissaires, les inspecteurs, la garde de Paris, mais vous avez aussi les pompiers, vous avez les allumeurs de lanternes, c'est-à-dire tous ceux qui interviennent dans des secteurs qui intéressent l'espace de la ville, et pas simplement à l'échelle du quartier, mais bien à l'échelle de toute la ville, dans des matières qui peuvent intéresser la sûreté publique, comme l'éclairage public, sont placés en quelque sorte sous la responsabilité, l'action coordinatrice du lieutenant général de police. C'est aussi à ce moment-là que la lieutenance de police lance de manière beaucoup plus systématique, sur des problèmes ciblés, comme par exemple le contrôle des étrangers, des patrouilles à l'échelle de toute la ville, coordonnant plusieurs forces, donc pour essayer de régler ce problème. En 1782, donc cette admirable vigilance de la police repose aussi sur, deuxième pièce donc, qui a dû disparaître, sur la publication d'avis qui sont imprimés par l'imprimeur de la police et qui sont diffusés très largement dans toute la population. Alors ces avis sont absolument exceptionnels parce que c'est un plan de gestion de la circulation, non pas à l'échelle de la place, à l'échelle du quartier, à l'échelle des espaces de festivité, mais à l'échelle de toute la ville. On arrête les charrois les plus importants à la périphérie, interdit de livrer des pondéreux pendant les cérémonies. Donc, si vous voulez, là, on gère les flux à l'entrée même de la ville, en les bloquant. Et il y a un plan de circulation qui est assez extraordinaire, qui décrit, avec des sens interdits, quelles sont les voies qu'on peut emprunter dans un sens ou dans l'autre, à l'entrée ou à la sortie. Il y a des voies pour les piétons, on sépare les flux, il y a des voies pour les piétons, il y a des voies pour les carrosses. Il y a un peu l'équivalent de ce qui pourrait se faire aujourd'hui quand il y a un cortège officiel qui passe dans des voies. On ferme tout ce qui pourrait gêner et on évacue ce qui pourrait gêner la circulation, donc interdiction de stationner, et s'il y a des charrettes, etc., qui sont là, on les enlève, enfin, c'est pas encore la fourrière, mais ça s'en rapproche. Ce que je veux dire, c'est que vous avez ici, à la différence des fois précédentes, semble-t-il, la conception à une échelle métropolitaine d'un plan de circulation visant à sécuriser l'espace de la ville et l'espace des festivités. Si vous voulez, il n'y a pas d'invention des techniques. Les techniques, elles existent déjà. Ce que je regarde dans des ordonnances de police d'autres villes de province, j'ai regardé un peu à Lille et à Lyon pour le moment, eh bien, montre que on faisait déjà ça. Hein, on libère l'espace, on essaye de fluidifier les circulations, etc. Mais jamais à une telle échelle, jamais sous cette forme-là et sous une forme manifestement très organisé et en s'appuyant donc sur un souci d'informer le public et de faire partager très largement les dispositions au-delà même de la publication imprimée et des ordonnances de police. Donc là, ça va au-delà. Donc, si vous voulez, en conclusion, cette catastrophe de la rue Royale et de tout ce qui peut s'y rattacher, hein, marque sans doute une étape dans la recomposition des pouvoirs de police et dans le fonctionnement d'un certain nombre de corps responsables de la sûreté publique. C'est une catastrophe qui confirme également un certain nombre de manières de faire de l'administration, incarnée ici par la police du Châtelet, l'enquête, l'inventaire, le registre, ce qu'on a pu appeler l'esprit de formulaire, la construction d'un savoir qui peut être de plus en plus mobilisé pas simplement de manière préventive, mais aussi dans l'administration des secours. C'est justement sur ce type de piste que travaille Thomas Leroux, vous l'avez vu lorsqu'il est venu. Et peut-être qu'au-delà de ça, un événement comme cette catastrophe de la rue Royale, c'est en tout cas une hypothèse que je vais essayer d'examiner sérieusement, marque un changement d'échelle dans ce que les Anglais appellent le policing, hein, donc la manière de faire la police et de sécuriser ou d'organiser les régulations sociales, une échelle qui est cette fois-ci métropolitaine. Ça n'est plus l'échelle du voisinage, ça n'est plus l'échelle de la rue, ça n'est plus l'échelle du quartier, et donc ça traduit un progrès, si vous voulez, dans le souci de quadriller l'espace urbain, et c'est sans doute un des traits, hein, de manière générale, des réformes policières à la fin du XVIIIe siècle.